En décembre, l'ANC avait reçu une invitation du mouvement panafricain de libération de l'Afrique orientale, centrale et australe, PAFMECSA, pour assister à sa conférence d'Addis Abeba en février 1962. Le PAFMECSA, qui deviendrait plus tard l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, avait pour but de réunir les États indépendants d'Afrique et de promouvoir les mouvements de libération sur le continent. La conférence apporterait d'importantes relations à l'ANC et serait la première et la meilleure occasion de trouver un soutien, de l'argent et un entraînement militaire pour MK. La direction clandestine me demanda de conduire la délégation de l'ANC à la conférence. Ma mission en Afrique ne consistait pas seulement à assister à la conférence. Je devais trouver un soutien politique et financier à notre nouvelle force militaire et, plus important, des possibilités d'entraînement pour nos hommes dans le plus grand nombre d'endroits possibles sur le continent. J'étais aussi déterminé à œuvrer pour la réputation de notre mouvement qui restait encore relativement inconnu en Afrique. Le PAC avait lancé sa propre campagne de propagande et j'étais chargé de défendre notre cause. J'ai passé la nuit qui précédait mon départ avec Winnie, chez des amis blancs, dans la banlieue nord de Johannesburg, où elle m'apporta une valise neuve qu'elle m'avait préparée. Mon départ l'inquiétait, mais elle restait stoïque. Elle se conduisait autant comme un soldat que comme une épouse. L'ANC avait organisé mon voyage jusqu'à Dar es Salaam, au Tanganyika. Je suis arrivé à Dar es Salaam le lendemain et j'ai rencontré Julius Nyerere, le premier président de ce pays nouvellement indépendant. Je lui ai expliqué notre situation et j'ai terminé en lui demandant son aide. C'était un homme sage, qui parlait doucement et qui se montrait bien disposé à l'égard de notre mission. Mais la perception qu'il avait de la situation m'a surpris et épouvanté. Il m'a suggéré de retarder la lutte armée jusqu'à ce que Sobukwe, le leader du PAC, sorte de prison. C'est la première fois que j'ai constaté l'attrait qu'exerçait le PAC dans toute l'Afrique. Je lui ai décrit la faiblesse du PAC et je lui ai expliqué qu'un report signifierait un recul de la lutte dans son ensemble. Il m'a conseillé de rechercher l'appui de l'empereur Haïlé Sélassié en me promettant de m'organiser une entrevue. Je me suis ensuite rendu à Accra, la capitale du Ghana, pour assister à la conférence des États indépendants où je retrouvais Oliver Tambo. Nous étions heureux de nous revoir. Et je l'ai complimenté pour l'énorme travail qu'il avait accompli à l'étranger. Il avait déjà installé des bureaux de l'ANC au Ghana, en Angleterre, en Égypte et au Tanganyika, et avait établi des contacts importants dans beaucoup d'autres pays. Partout où j'ai voyagé par la suite, j'ai découvert l'impression très positive qu'il avait faite aux diplomates et aux hommes d'État. C'était le meilleur ambassadeur possible pour notre organisation. L'objectif de la conférence des États indépendants de Lagos, au Nigeria, était l'union des États africains, mais elle se termina dans des querelles pour savoir quels États accepter ou exclure. Je suis resté discret et j'ai évité la conférence, car nous ne voulions pas que le gouvernement sud-africain sache que je me trouvais à l'étranger avant mon apparition à la conférence du PAFMECSA à Addis Abeba. Dans l'avion d'Accra à Addis Abeba, nous avons retrouvé Gor Radebe, Peter Molotsi et d'autres membres du PAC qui se rendaient aussi au PAFMECSA. Tous furent surpris de me voir et immédiatement nous nous sommes plongés dans des discussions sur l'Afrique du Sud. L'atmosphère était agréable et détendue. J'avais été consterné d'apprendre que Gor quittait l'ANC, mais cela ne diminuait pas mon plaisir de le revoir. Haut dans le ciel et loin de chez nous, nous avions beaucoup plus de choses qui nous réunissaient que de choses qui nous séparaient. Nous avons fait une rapide escale à Khartoum, au Soudan, où nous avons pris un vol de l'Ethiopian Airways pour Addis Abeba. À ce moment-là, j'ai connu une sensation assez étrange. En montant dans l'avion, j'ai vu que le pilote était noir. Je n'avais jamais vu de pilote noir. Et sur le moment, j'ai dû réprimer ma panique. Comment un noir pouvait-il piloter un avion? Mais je me suis repris. J'étais tombé dans l'état d'esprit de l'apartheid, en imaginant les Africains inférieurs et le pilotage un travail réservé aux Blancs. Je me suis assis dans mon siège en me reprochant d'avoir eu de telles pensées. La tradition dit que l'Éthiopie, qui s'appelait autrefois l'Abyssinie, a été fondée bien avant la naissance du Christ par le fils de Salomon et de la reine de Saba. Bien qu'elle ait été conquise des dizaines de fois, c'est en Éthiopie qu'est né le nationalisme africain. Contrairement à tant d'autres États africains, elle n'a cessé de combattre le colonialisme. Ménélique a repoussé les Italiens au XIXe siècle. En 1930, Haïlé Sélassié devint empereur et détermina l'histoire de l'Éthiopie contemporaine. L'Éthiopie a toujours tenu une place à part dans mon imagination, et la perspective de la visiter m'attirait encore plus qu'un voyage en France, en Angleterre ou aux États-Unis. J'avais l'impression d'aller visiter le pays de mes origines, de retrouver les racines qui avaient fait de moi un Africain. Rencontrer l'empereur, ce serait pour moi comme de serrer la main de l'histoire. La conférence fut officiellement ouverte par Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié, qui portait un uniforme orné d'un brocart très élaboré. Je fus surpris de voir que l'empereur était petit, mais sa dignité et son assurance lui donnaient l'allure du géant africain qu'il était. Pour la première fois, je voyais un chef d'État dans l'exercice de ses fonctions, et cela me fascinait. Il se tenait parfaitement droit et penchait simplement la tête pour indiquer qu'il écoutait. La dignité marquait toutes ses actions. Je devais parler après l'empereur, seul autre orateur de la matinée. Pour la première fois depuis des mois, j'ai abandonné l'identité de David Motsamai pour redevenir Nelson Mandela. Dans mon discours, j'ai rappelé l'histoire de la lutte de libération en Afrique du Sud et j'ai évoqué les massacres commis contre notre peuple depuis Bull Hook en 1921, quand l'armée et la police avaient tué 183 paysans sans armes, jusqu'à Sharpeville, 40 ans plus tard. J'ai remercié les nations présentes des pressions qu'elles exerçaient sur l'Afrique du Sud, en citant en particulier le Ghana, le Nigeria et le Tanganyika, qui avait été à l'origine de l'exclusion de l'Afrique du Sud du Commonwealth. J'ai retracé la naissance d'Umkhonto Wesisoué, en expliquant qu'on nous avait interdit toute possibilité de lutte pacifique. Les responsables commettent un crime contre leur peuple s'ils hésitent à affûter leurs armes politiques, quand elles sont devenues moins efficaces. Pendant la nuit du 16 décembre dernier, toute l'Afrique du Sud a vibré sous les coups puissants d'Umkhonto Wesisoué. J'avais à peine fini de dire cela que le premier ministre d'Ouganda s'écria « Il faut encore les frapper !» Oliver et moi, nous eûmes un entretien privé avec Kenneth Kaunda, le chef du Parti uni de l'indépendance nationale de la Rhodésie du Nord et futur président de la Zambie. Comme Julius Nyerere, Kaunda s'inquiétait de l'absence d'unité parmi les combattants pour la liberté sud-africaine et il nous suggéra d'unir nos forces lorsque Sobukwe sortirait de prison. Parmi les Africains, le PAC avait occupé le centre de la scène à Sharpeville d'une façon qui dépassait de beaucoup son influence réelle en tant qu'organisation. Quand j'ai essayé de lui expliquer que le soutien de l'UNIP au PAC était une erreur, Kaunda m'a posé la main sur l'épaule et m'a confié. Me dire cela à moi, c'est porter de l'eau à la mer. Je suis un de vos partisans et un admirateur du chef Lutuli, mais je ne suis pas la seule voix de l'UNIP. Vous devez parler aussi à Simon Kapwepwe. Si vous le persuadez, vous me faciliterez la tâche. Kapwepwe était le second de l'UNIP, et j'ai organisé une rencontre pour le lendemain. J'ai passé toute la journée avec Kapwepwe et je l'ai entendu raconter l'histoire la plus étonnante. « Nous avons été fortement impressionnés par votre discours, m'a-t-il dit, et par toute la délégation de l'ANC. Si nous devions juger votre organisation sur ces deux éléments, nous serions sans aucun doute dans votre camp. Mais le PAC nous a fait des rapports troublants, d'après lesquels Umkonto Wesisue serait une idée du Parti communiste et du Parti libéral et consisterait simplement à utiliser les Africains comme chair à canon. Je ne savais plus quoi dire, et j'ai laissé échapper que j'étais stupéfait qu'ils ne se rendent pas compte combien cette histoire était fausse. Premièrement, et je dis, tout le monde sait que le Parti libéral et le Parti communiste sont les pires ennemis, et qu'ils ne peuvent s'entendre pour faire jeu commun. Deuxièmement, je suis ici pour vous dire, au risque de sembler immodeste, que j'ai été le principal artisan de la formation de MK. J'ai conclu en lui disant que j'étais très déçu de voir que le PAC répandait de tels mensonges. À la fin de la journée, j'avais convaincu Kapwepwe. Et il me dit qu'il allait convoquer une réunion et nous défendre lui-même, et c'est ce qu'il a fait. Mais c'était un nouvel exemple du manque de connaissance de l'Afrique du Sud dans le reste de l'Afrique et de ce que pouvait faire le PAC pour salir l'ANC. Kapwepwe me souhaita bonne chance car la conférence était terminée. Cela avait été un succès, mais une tâche immense nous attendait. À Tunis, notre première étape après la conférence, nous avons rencontré le ministre de la Défense, qui ressemblait étonnamment au chef Loutouli. Mais j'en ai peur, la ressemblance s'arrêtait là. Car pendant que je lui expliquais la situation dans notre pays avec des responsables comme Robert Sobukwe en prison, il m'a interrompu pour me dire « Quand ce type va sortir, il va tous vous liquider ». J'ai insisté pour faire un tableau complet au ministre. Le lendemain, quand nous avons rencontré le président Habib Bourguiba, sa réponse a été entièrement positive et immédiate. Il a offert d'entraîner nos soldats et 5000 livres pour acheter des armes. Au Liberia, j'ai rencontré le président Tubman, qui m'a donné 5000 $ pour des armes et de l'entraînement. Du Liberia, je suis allé au Ghana, où nous avons été reçus par l'ambassadeur de Guinée, Abdoulaye Diallo. Nous lui avons expliqué l'histoire de l'ANC et de MK, et nous lui avons demandé 5000 $ en soutien à MK. Il nous a écoutés calmement et nous a répondu de façon formelle, comme s'il faisait un discours. Le gouvernement et le peuple de Guinée soutiennent entièrement la lutte de nos frères d'Afrique du Sud, et nous avons fait des déclarations à l'ONU en ce sens. Il est allé jusqu'à une bibliothèque dans laquelle il a pris 2 livres de lui qu'il nous a dédicacés. Puis il nous a dit merci et nous a raccompagnés. Nous étions très ennuyés, nous avions perdu notre temps. Peu de temps après, nous étions dans notre chambre d'hôtel quand un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères guinéen a frappé à notre porte et nous a tendu une valise. Nous l'avons ouverte pour découvrir qu'elle était remplie de billets de banque. Notre destination suivante était Londres. J'avais plusieurs raisons pour vouloir aller en Grande-Bretagne, en plus de mon désir de voir le pays dont j'avais tant entendu parler et sur lequel j'avais lu tant de choses. La santé d'Oliver m'inquiétait, et je voulais le persuader de se faire soigner. J'avais aussi très envie de voir sa femme Adélaïde et leurs enfants. Je savais aussi que je pourrais m'y procurer de la littérature sur la guerre de guérilla que je n'avais pas trouvée ailleurs. Par la suite, je fus triste de quitter mes amis de Londres, mais je partais maintenant dans la partie de mon voyage qui m'était la moins familière, l'entraînement militaire. J'avais prévu de recevoir un entraînement de 6 mois à Addis Abeba. Là-bas, je retrouvais le ministre des Affaires étrangères qui m'accueillit chaleureusement et qui m'emmena dans une banlieue appelée Kolfé, le quartier général du bataillon révolutionnaire éthiopien, où je devais apprendre l'art et la science des armes. Bien qu'étant boxeur amateur, je connaissais à peine les rudiments du combat. Mon instructeur était le lieutenant Wondoni Befikadu, un soldat expérimenté qui avait combattu les Italiens dans la clandestinité. Notre programme était très dur. Entraînement de 8h à 13h, douche et déjeuner, puis nouvelle séance de 14 à 16 heures. À partir de 16 heures, le colonel Tadesse me donnait des cours de sciences militaires. C'était l'adjoint du préfet de police et il avait réussi à faire échouer une tentative de coup d'État contre l'empereur. J'ai appris à tirer avec un fusil automatique et un pistolet et je me suis entraîné au tir à la fois à Colfé avec la garde de l'empereur et sur un champ de tir à une cinquantaine de kilomètres avec tout le bataillon. On m'a enseigné la démolition et l'utilisation d'un mortier ainsi que la fabrication de petites bombes et de mines et la façon de les éviter. Je me sentais transformé en soldat et je commençais à penser comme un soldat, ce qui est loin de la façon de penser d'un politicien. L'entraînement devait durer 6 mois, mais au bout de 8 semaines, j'ai reçu un télégramme de l'ANC qui me demandait de rentrer de toute urgence. La lutte armée prenait de l'ampleur et ils avaient besoin du commandant de MK. Le colonel Tadesse me fit conduire en avion jusqu'à Khartoum. Avant que je parte, il m'offrit un pistolet automatique et 200 cartouches. Je lui fus très reconnaissant pour son enseignement et pour le pistolet. De Khartoum, je suis allé directement à Dar es Salaam, où j'ai accueilli le premier groupe de 21 recrues d'Umkonto qui se rendaient en Éthiopie pour y suivre un entraînement militaire. Ce fut un moment de fierté, car ces hommes s'étaient portés volontaires pour entrer dans une armée que j'essayais de créer. De là, je suis allé directement à Lobatse, à la frontière de l'Afrique du Sud. Je devais rentrer en Afrique du Sud avec Cecil Williams, un blanc, directeur de théâtre et membre de MK. J'ai pris le volant, déguisé en chauffeur, et nous sommes partis pour Johannesburg.